100% d'Europe. Frédéric Lebel.
Bonjour à tous. Tout cet été, Accent d'Europe vous fait revivre les meilleurs moments avec les meilleurs reportages. On a aperçu quelques spécimens à la périphérie de Berlin. Le loup est de retour en Allemagne. Après avoir quasiment disparu à la fin du 19e siècle, le prédateur est revenu il y a une quinzaine d'années en provenance de Pologne et de République tchèque. Aujourd'hui, le pays compterait quelque 300 loups répartis en une trentaine de meutes. Pas vraiment une bonne nouvelle pour les éleveurs, mais un sujet de fascination certain pour les amoureux de la nature qu'a suivi Julien Méchaussier sur les traces du loup.
Nous sommes à deux petites heures de route de Berlin dans les vastes forêts du Brandebourg, pas très loin de la commune de Welzow. Expert du loup au NABU, organisation de protection de la nature, Markus Batten sait que la région est propice à l'observation des mammifères carnassiers. Plusieurs meutes y ont élu domicile.
Oh, nous avons déjà notre première empreinte, elle fait 10 cm. Dans tous les cas, c'est soit un chien aussi grand qu'un loup, ou alors c'est bien un loup. Mais elle est belle, elle est d'hier, on va suivre ses traces laissées par l'animal. Si elle change souvent de direction, on a affaire à un chien qui gaspille beaucoup d'énergie en jouant. Si c'est un loup qui parcourt de longues distances, alors les empreintes sont bien régulières et droites. Mais là, ça ressemble vraiment à un loup, c'est notre jour de chance.
Un loup peut parcourir jusqu'à 40 km par jour et ainsi se retrouver parfois en bordure des villes, comme cela a été plusieurs fois le cas à Berlin, capitale très étendue et qui comprend de nombreuses zones boisées. Pas de quoi cependant paniquer, rassure Markus Batten.
Non, il n'y a aucune inquiétude à avoir. Ce n'est pas comme les sangliers ou les renards qui mangent tout ce qu'ils trouvent et qui sont donc attirés par la ville. Le loup, lui, est un grand chasseur. Il a besoin d'une proie qu'il peut traquer et ça, il ne la trouve pas en ville. Malgré tout, il est possible de voir des loups en bordure des villes ou que l'un d'eux se perde et s'aventure dans un espace urbain. Mais vous pouvez être sûr qu'il rebroussera vite chemin.
Et c'est exactement ce qui est arrivé à un carrefour à l'entrée de la petite ville de Welzow, au plus grand étonnement des automobilistes.
C'était l'année dernière au printemps, le loup est sorti de ce bois qui est derrière la route. Il a traversé le carrefour, les automobilistes surpris ont freiné, le loup est resté quelques minutes, il a vite remarqué qu'il n'y avait ici que des habitations et il est reparti à travers un champ. Une automobiliste m'a tout de suite prévenu, je suis venu immédiatement, mais je n'ai malheureusement pas vu le loup.
Selon un récent sondage, 70% des Allemands voient d'un œil positif le retour du loup. Avec un détail étonnant, il n'y a pratiquement pas de différence entre citadins et ruraux. Depuis les années 2000 et la réapparition des premiers loups, les organisations environnementales se sont tout de suite mises au travail avec un objectif: impliquer toutes les parties. Les habitants des zones concernées, bien sûr, mais aussi les éleveurs de moutons et de chèvres, trop souvent victimes du prédateur. En collaboration avec les Länder, des plans quinquennaux ont été mises en place, avec indemnisation en cas d'animaux d'élevage tués par le loup et aide pour la construction de nouvelles barrières. Et malgré les réticences, la cohabitation homme-loup fait son chemin, comme le constate Moritz Klose, autre expert du loup chez WWF, un processus qui ne doit exclure personne, pas même les chasseurs.
Les chasseurs sont des personnes qui connaissent bien la nature, qui sont des experts de leur région. Cette implication des chasseurs, c'est très important pour nous.
Du gibier en nombre, de l'eau et de la tranquillité pour ces louveteaux, voilà les ingrédients du parfait espace vital des loups. Des régions comme le Brandebourg lui offrent ces conditions rêvées, héritées en partie de la guerre froide. Les nombreux anciens terrains militaires constituent en effet un petit coin de paradis pour le canidé, des espaces que le WWF souhaite protéger.
Il s'agit d'immenses surfaces qui sont très tranquilles, où le calme règne. Et les loups en Allemagne l'ont bien remarqué. Nous observons de nombreuses meutes sur des terrains de manœuvre militaires. Ces espaces leur offrent un refuge et comme il y a peu d'activités humaines, ils y trouvent aussi beaucoup de gibier. Un autre facteur très important sur ces terrains, il n'y a pas de route empruntée par les voitures.
Depuis le début de l'année 2016, une dizaine de loups ont déjà été victimes d'accidents causé par des voitures.
Retour sur un événement clé de l'histoire espagnole. Il y a plus de 35 ans, le 23 février 1981, donc, la toute jeune démocratie espagnole essuyait un coup d'État dans l'enceinte même du Parlement, filmé par les équipes de télévision. Récit de cette journée où le roi est devenu le garant de la démocratie en Espagne, Martine Pouchard.
23 février 1981, il est 18h au Cortés, le Parlement à Madrid. Les députés votent l'investiture du nouveau président du gouvernement. 20 minutes plus tard, un groupe de gardes civils armés fait irruption dans l'hémicycle et intime à tous l'ordre de se coucher à terre. Avec beaucoup de courage, le responsable de la télévision espagnole filme la scène. Les images sont retransmises dans le monde entier. On se souvient de ce garde civil au tricorne typique de ce corps d'armée, Antonio Terrero, revolver au poing, menaçant et tirant en l'air. Le général Manuel Gutiérrez Mellado, vice-président du gouvernement, chargé des affaires de sécurité et de défense, fait face aux putschistes, leur demandant de rendre les armes. Ils vont le maîtriser. Adolfo Suárez, le président du gouvernement, tente de le secourir. L'histoire retiendra leur courage, comme celui du communiste Santiago Carrillo, stoïque et droit sur son siège, qui refuse de se laisser impressionner. Dans le même temps, à Valence, un autre militaire, Jaime Milans del Bosch, fait entrer les chars dans la ville. Les autres provinces militaires ne suivent pas. Le refus du roi Juan Carlos de soutenir le coup d'État le fait avorter dans la nuit à 1h du matin. Dans une allocution à la nation, le roi impose son autorité et défend la Constitution. Antonio Tejero et ses hommes vont résister, mais dans la matinée du 24 février, ils se rendent et les députés sont libérés. Les principaux putschistes seront condamnés à 30 ans de prison. Les putschistes ont cru pouvoir profiter d'une période incertaine et fragile en Espagne, la démocratie étant bien jeune. Le pays sort tout juste des longues années noires du franquisme et il est plongé dans une profonde crise économique. S'ajoutent à cela les attentats terroristes des mouvements basques de l'ETA et antifascistes du Grapo. 35 ans plus tard, les Espagnols n'ont rien oublié, même si leur mémoire flanche parfois lorsqu'il s'agit de se souvenir du rôle qu'a joué alors le roi Juan Carlos. Le sentiment antimonarchique s'est répandu dans les régions, spécialement en Catalogne, où les indépendantistes réclament aujourd'hui une république. Malgré tout, à l'heure où le gouvernement espagnol peine à se former, c'est dans une atmosphère beaucoup plus sereine que les choses se passent. Un vent nouveau souffle au Cortés, ainsi l'image très médiatisée de cette députée du nouveau parti des indignés Podemos, venue au Parlement avec son bébé, vedette d'un jour d'un Parlement décidément très rajeuni.
Reporters et solidaires, les journalistes en Turquie tirent la sonnette d'alarme sur la situation et les conditions de travail dans l'est du pays, où une guerre sanglante fait rage au cœur des villes entre l'État et le PKK kurde. Pour soutenir leurs collègues de l'est, les journalistes de l'ouest ont décidé de lancer un vaste programme de reportages et d'échanges. Chaque semaine, un groupe de reporters part d'Istanbul pour rejoindre l'Anatolie. C'est le reportage d'Anne Andlauer.
Tunca Öğreten et Evrim Kurdoğlu sont journalistes depuis une dizaine d'années. L'un travaille pour Diken, un quotidien en ligne, l'autre est indépendante. Basée à Istanbul, ils ont lancé au début du mois une initiative qui les porte, eux et plusieurs de leurs collègues, à l'autre bout de la Turquie, dans le sud-est anatolien. Là où une guerre vieille de 30 ans s'est ravivée l'été dernier entre l'État turc et le PKK, parti des travailleurs du Kurdistan. Dayan Öçmen Nöbeti, ou Veille de Solidarité, c'est le nom de leur projet. Il consiste, chaque semaine, a envoyé un groupe de journalistes de l'ouest de la Turquie, auprès de leurs collègues de l'est, cet est à majorité kurde, si peu et mal connu d'une grande partie des Turcs. Evrim explique leur démarche.
Nous observions de loin les difficultés de nos collègues qui travaillent dans la région. Récemment, la police a pointé une arme sur le front d'un reporter d'une chaîne de télé. Nous avons vu une autre collègue arrêtée en direct, et même un caméraman visé et blessé par des tirs de forces de sécurité. Tout cela nous perturbe beaucoup. Nous cherchions un moyen d'être solidaires et de porter la voix de nos collègues qui travaillent dans cette région et dans ces conditions.
Evrim et Tunca ont fait partie du premier groupe d'une dizaine de journalistes qui s'est rendu à Diyarbakır, la grande ville du sud-est. Son centre historique, l'arrondissement de Sur, vient de subir plus de 2 mois de couvre-feu ininterrompu. 2 mois d'affrontements quotidiens dans des rues étroites et meurtries entre le PKK d'un côté, l'armée et la police de l'autre. Et au milieu de ces combats, des civils et notamment des journalistes qui essayent de faire leur travail. Evrim voulait en savoir plus sur le quotidien de ses collègues kurdes. Elle n'a pas été déçue.
Je me promenais dans Sour avec ma collègue Chériban. Elle me racontait comment elle avait été blessée dans Sour, comment la police les avait bloqués, ce qui leur était arrivé. Et pile à ce moment-là, des tirs nous ont visés. Mes collègues locaux se sont immédiatement jetés à terre et ils ont réussi à s'enfuir dans une rue adjacente. Mais moi, je n'ai rien compris. Je suis restée pétrifiée au milieu de la rue jusqu'à ce que les tirs s'arrêtent. C'est le genre de différence entre nous et nos collègues kurdes. Oui, nous vivons dans le même pays, mais nous ne vivons pas dans ces régions. Nous y sommes comme des étrangers. Nous ne comprenons pas le kurde. Mais nos collègues, eux, ils sont nés là-bas. Ces conditions que je vous décris, ils ont grandi avec, avant même de devenir journaliste.
Tunca, lui, a voulu se rendre à Cizre, dans la province de Şırnak. Il n'a pas réussi. Il a tout de même publié, comme ses autres collègues, des articles non seulement dans son journal, mais aussi dans les médias locaux qui l'ont accueilli plusieurs jours.
Nos collègues kurdes ont trouvé notre initiative honorable. Ils se sont dit reconnaissants. Mais tout de suite après, ils nous ont fait remarquer que nous arrivions un peu tard. J'y ai beaucoup réfléchi, ils ont raison. Et pour réparer cela, il faut que notre initiative perdure. Certes, il y a beaucoup de journalistes, d'activistes, d'universitaires, d'artistes qui vont dans le sud-est pour soutenir leurs collègues sur place. Ils manifestent, ils restent une journée puis repartent. Nos collègues nous ont demandé de poursuivre le projet pendant au moins 3 ou 4 mois et de ne pas les laisser tomber.
C'est bien leur intention, mais si ces journalistes ont soif de solidarité, c'est aussi que leur quotidien, même en restant à Istanbul, est loin d'être évident.
Dans le sud-est, les journalistes subissent des pressions physiques. Pour nous, ici, ce sont d'autres pressions, judiciaires en particulier. En l'espace d'un an et demi, j'ai affronté 14 procès, dont 6 en cour pénale pour insulte au président de la République. J'ai été acquitté pour 4 affaires, les autres continuent. Je peux bien être innocenté dans 13 procès, il suffit que je sois condamné dans le 14e pour aller en prison. Personne ne peut avoir confiance dans notre système judiciaire. Vous avez bien vu récemment ce qui est arrivé aux centaines d'intellectuels qui ont signé une pétition pour la paix. Non seulement ils affrontent des procès pour propagande terroriste, mais plusieurs ont aussi été renvoyés des universités pour lesquelles ils travaillaient.
Des pressions qui, disent-ils, ne les empêcheront pas de faire leur métier à l'ouest, à l'est et partout ailleurs en Turquie.
J'ai toujours été très curieuse et je pars du principe que si je veux savoir, d'autres aussi veulent savoir et ont le droit de savoir. C'est une passion. Malheureusement, il y a tellement de gens qu'on n'entend pas en Turquie, tellement d'histoires qu'on ne raconte pas. Nous venons de parler des Kurdes, mais il y a aussi les Alevis, les chrétiens, les arméniens, les homosexuels. Je veux être leur voix, raconter leurs histoires. C'est pour ça que je fais ce métier.
Le numéro 233 en provenance de
Villeneuve-en-Provence. L'État français ne financera plus les trains de nuit, trop peu rentables, trop chers. Ils coûtent aux contribuables 100 euros par voyageur. Le service est donc généreusement ouvert à la concurrence internationale. Une première pour les lignes intérieures, alors que des compagnies italiennes, espagnoles et allemandes opèrent déjà en France depuis 2010 sur les liaisons internationales. L'ouverture et la concurrence européenne sur le rail, c'est le sujet de la chronique de Daniel Vigneron du site myeurope.info. Bonjour Daniel.
Bonjour Frédéric.
Alors Daniel, c'est à cause de l'Europe que l'État français se décide à ouvrir le transport ferroviaire national des voyageurs à la concurrence.
La réglementation européenne en cours de négociation à Bruxelles, ce que l'on appelle le quatrième paquet ferroviaire, n'imposera cette ouverture qu'en 2020 pour les services commerciaux non subventionnés, comme le TGV en France. Et l'ouverture interviendra au plus tôt en 2024 pour les trains dits conventionnés, c'est-à-dire tous les autres trains aidés financièrement par les régions ou l'État, en France les TER ou les trains intercités. On ne parle là que de quelques lignes que l'État a décidé de ne plus financer parce qu'elles sont très déficitaires. Les candidats risquent donc de ne pas se bousculer.
Et pourquoi faudrait-il absolument instaurer ce régime de concurrence? Les trains fonctionnent-ils si mal en France?
Globalement, c'est vrai, le service ferroviaire français est bien noté par les organismes spécialisés. Mais c'est parce que le réseau hautement technologique du TGV est très développé en France. En revanche, les grandes lignes classiques et beaucoup de lignes régionales ont été longtemps négligées. Pour les régions ou l'État, recourir aux opérateurs privés qui n'ont pas les mêmes charges permettrait d'économiser de l'argent public tout en offrant aux usagers des services plus innovants.
Mais la concurrence a-t-elle démontré ses bienfaits chez nos voisins? On se souvient des graves accidents ferroviaires après la privatisation du rail britannique.
C'est vrai, de 1997 à 2004, nos voisins britanniques ont subi 7 accidents ferroviaires graves qui ont fait de nombreuses victimes. C'était le résultat d'une privatisation intempestive du réseau qui a débouché sur un sous-investissement dramatique. Mais le gouvernement de Tony Blair a réagi avec vigueur en renationalisant le réseau et en créant une autorité de régulation puissante. Aujourd'hui, une dizaine d'opérateurs de droit privé, qui sont d'ailleurs souvent des filiales des opérateurs historiques étrangers, exploitent l'ensemble du réseau divisé en 20 franchises. Les résultats sont très probants. Depuis la privatisation de British Rail en 1994, la fréquentation des trains a plus que doublé. Les investissements sont élevés car les opérateurs dégagent des bénéfices dont ils reversent une partie au trésor. La satisfaction des usagers est la meilleure d'Europe. Et surtout, le rail britannique est désormais le plus sûr de l'Union. Depuis 2005, il a causé 3 fois moins de morts qu'en Allemagne et près de 2 fois moins qu'en France.
Et quelles sont les autres expériences de concurrence dans le ferroviaire, Daniel ?
Alors, outre le Royaume-Uni, le transport ferroviaire de voyageurs est ouvert à la concurrence en Allemagne, en Suède, aux Pays-Bas, en Italie. Et il l'est partiellement en Autriche et en République tchèque. L'Italie est le seul pays à connaître une concurrence sur les lignes à grande vitesse reliant le nord au sud, sur lesquelles l'opérateur public Trenitalia est concurrencé depuis 2012 par le train Italo du groupe NTV. En Allemagne, la concurrence s'exerce sur les lignes régionales où les opérateurs alternatifs ont pris 30% du marché à l'opérateur historique Deutsche Bahn. Principaux résultats depuis 2002, la fréquentation des trains régionaux a augmenté de 34% en Allemagne, en France c'est 31%, alors que les subventions publiques au rail sont restées constantes à 11 euros pour chaque kilomètre parcouru par un train. Par contraste, les soutiens publics ont augmenté de 18% en termes réels en France et atteignent près de 24 euros, plus de 2 fois plus qu'en Allemagne.
Finalement, est-ce une bonne raison d'ouvrir à la concurrence en France ?
Tout à fait, Frédéric. J'en ajoute encore une. À l'heure où le défi climatique nous enjoint de favoriser les transports propres comme le train, les pouvoirs publics français se désengagent du rail pour favoriser le transport par autocar. Or, il faudrait plutôt développer le transport ferroviaire conventionné en finançant avec moins d'argent public des trains mieux équipés et plus fréquents répondant aux besoins des usagers.
Merci beaucoup Daniel Vigneron, à très bientôt.
À bientôt Frédéric.
Ce sont des paysages de cartes postales, des villages colorés à flanc de rocher qui surplombent au sud de Gênes la Méditerranée. Mais les villages du parc national de Cinque Terre en Italie sont en surfréquentation touristique. Le parc a donc décidé de limiter le nombre de visiteurs à 1,5 million par an contre 2,5 millions l'an dernier. Une mesure drastique pour éviter le pire, Mathilde Villain.
Tout le monde ou presque connaît le paysage tellement italien des Cinque Terre, ces petits villages accrochés à la falaise, avec ses maisonnettes aux façades ocre, rose ou jaune, cette mer turquoise, ses sentiers escarpés, dont le plus célèbre, la Via dell'Amore, est un sentier qui, raconte la légende, permettait aux amoureux des villages attenants de se retrouver. Voilà pour la carte postale. La réalité des Cinque Terre, ce sont aujourd'hui 2,5 millions de touristes par an. Des bars et des restaurants bondés, des bus, des trains qui déversent chaque jour des groupes de touristes, dont 500 000 croisiéristes par an qui profitent de l'escale de leur bateau à Gênes ou à La Spezia pour explorer l'arrière-pays. Alors, limiter le tourisme de masse est devenu une question de survie pour le directeur du parc naturel des Cinque Terre, d'où l'idée d'instaurer des quotas de touristes. La région, inscrite au patrimoine de l'UNESCO, préfère s'exposer maintenant à la critique plutôt que de ruiner à l'avenir sa propre richesse. Mais comment passer d'un tourisme de masse à un tourisme durable ? Pour l'instant, ce sera en instaurant un système de tickets pour l'accès au sentier. Un compteur de pas a été installé. Les autorités locales et les géologues vont ainsi pouvoir définir le nombre limite de passages par jour afin de préserver le patrimoine, l'environnement et surtout de garantir la sécurité. Objectif : réduire le nombre de visiteurs à 1,5 million par an pour les 5 villages médiévaux où vivent aujourd'hui moins de 5000 habitants.
Merci d'avoir suivi Accent d'Europe. Dans quelques instants, un nouveau rendez-vous avec l'actualité sur RFI. Les plaisirs.